Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 28 avril. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sédoudia
et Mohamedou Oumfa.
Nous commençons par les titres.
Le Burkina Faso et la Guinée demandent à la CEDEAO un délai supplémentaire pour proposer un calendrier de la transition.
En République démocratique du Congo, des militaires sont accusés de violation des droits humains dans le territoire de Masisi.
Jean-Paul Mikomiza, un Rwandais soupçonné de génocide, a été extradé par la Suède, pays où il vivait depuis une quinzaine d'années.
Plus de 210 morts en 4 jours dans les violences au Darfour, au Soudan. L'ONU réclame une enquête.
En Éthiopie, l'on déplore au moins 20 morts dans une attaque contre des musulmans en région Amara.
Au Maroc, la police procède à plusieurs arrestations dans un café de Casablanca pour non-respect du jeûne du Ramadan.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à Boutcha, dans la banlieue de Kiev, en Ukraine. Moscou poursuit son offensive dans l'est de ce pays.
L'euro a plongé mercredi à son niveau le plus bas en 5 ans face au dollar.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
La CEDEAO enverra des missions au Burkina Faso et en Guinée après que les deux pays ont demandé un délai supplémentaire afin de présenter un calendrier pour la transition. Le délai qui leur avait été fixé a expiré lundi. Le point avec Abdourahman Dia.
Selon un communiqué de l'organisation régionale, le Burkina Faso a souhaité disposer d'un délai supplémentaire par rapport à l'échéance du 25 avril afin de poursuivre les consultations. De son côté, la Guinée a également souhaité avoir davantage de temps par rapport à l'échéance du 25 avril afin de permettre la poursuite des consultations, ajoute l'organisation. La CEDEAO annonce qu'elle enverra des missions dans ces deux pays avant un prochain sommet des chefs d'État à des dates non précisées. Publiquement, les autorités des deux pays ont clairement indiqué qu'elles n'entendaient pas se soumettre aux exigences de la CEDEAO au risque de se voir imposer de nouvelles sanctions. La Guinée et le Burkina ont été suspendus des instances de la CEDEAO et la Guinée frappée de sanctions économiques. Un autre pays de la région, le Mali, qui a connu 2 putschs depuis août 2020, est également suspendu et touché par d'importantes sanctions économiques.
Parlant du Mali, le couperet est tombé pour RFI et France 24 dans ce pays. La diffusion des deux médias audiovisuels français déjà coupés depuis mi-mars a été définitivement suspendue mercredi, signe d'une escalade des tensions entre Paris et Bamako et dans le sillage des tensions entre les deux pays. Rappelons que mardi, la junte malienne a accusé l'armée française de violations répétées de son espace aérien dans le but d'espionner les soldats maliens sur le terrain. Retour sur cette affaire avec Jean-Roger Bion.
L'une des infractions évoquées par Bamako dans un communiqué concerne le survol illégal par un drone français de la base militaire de Gossi au lendemain du transfert de cette base par la France aux forces maliennes. Par la suite, une vidéo mise en ligne a accusé les soldats français d'avoir laissé derrière eux un charnier contenant des cadavres de civils. À cette accusation, Barkhane a répliqué en diffusant ses propres images filmées par un drone montrant plutôt, selon elle, des mercenaires russes du groupe Wagner enterrer les 10 cadavres. Pour l'armée malienne, l'état de putréfaction des corps prouvait que les décès avaient eu lieu bien avant leur découverte. Bamako en a conclu qu'outre l'espionnage, les forces françaises se sont rendues coupables de subversion en publiant de fausses images montées de toutes pièces afin d'accuser les forces armées maliennes d'avoir tué des civils. Les Occidentaux dénoncent la coopération avec le groupe de sécurité privé Wagner. Bamako et Moscou assurent que, dans le cadre d'un accord bilatéral, seuls des instructeurs militaires russes sont présents au Mali. La France et ses partenaires impliqués dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel ont annoncé en février leur décision de retirer progressivement leurs forces du Mali, jugeant désormais impossible de coopérer avec la junte.
Dans l'est de la RDC, dans le territoire de Massissi, exécutions, viols, tortures, pillages, abus sur des enfants, travail forcé, collaboration avec des groupes rebelles ont été répertoriés dans un rapport de l'ONU accusant des militaires congolais d'exactions contre la population déjà victime des groupes armés. Le porte-parole de l'armée dans la région, le lieutenant-colonel Guillaume Diquet, a dit ne pas avoir connaissance des accusations portées contre les hommes d'un régiment des phares d'essai déployés dans le Massissi.
Un Rwandais soupçonné de génocide et qui vivait en Suède depuis une quinzaine d'années a été extradé mercredi vers son pays où il sera jugé pour son rôle présumé dans les massacres de 1994. Jean-Paul Mikomiza, alias Miko, est apparu menotté à sa descente d'un avion de la compagnie Rwandan Air et a été immédiatement amené par deux policiers rwandais.
Il est accusé d'avoir été impliqué, alors qu'il était étudiant à l'université, dans le génocide de 1994, au cours duquel 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été tués selon l'ONU. Miko Miiza était membre d'un comité dont la mission consistait à rechercher et identifier des civils Tutsis pour qu'ils soient tués selon l'organe national de poursuite judiciaire.
Au moins 213 personnes ont été tuées en 4 jours de violence au Darfour, selon les autorités de cette région de l'ouest du Soudan. Des heurts condamnés par l'ONU qui a réclamé mercredi une enquête rapide et indépendante. Selon la Coordination générale pour réfugiés et déplacés du Darfour, les violences ont éclaté vendredi lorsque des combattants armés issus de tribus arabes ont attaqué des villages Massalite, une minorité ethnique africaine, en représailles à la mort jeudi de 2 de leurs membres.
En Éthiopie, au moins 20 personnes ont été tuées hier à Gondar, ville de la région de l'Amara, dans le nord-ouest. Une organisation islamique affirme que l'attaque a été menée par des extrémistes chrétiens lors des funérailles d'un dignitaire musulman. Claire Morin-Gibourg.
Le maire de Gondar, Zouedou Malédé, a simplement confirmé que quelques extrémistes ont provoqué un incident avec des pertes de vies humaines des deux côtés, musulmans et chrétiens. Le gouvernement régional de l'Amhara a dénoncé une tentative de briser l'unité des habitants de cette ville, symbole de coexistence et de tolérance, en utilisant le prétexte de la religion. Le Conseil des affaires musulmanes de la région Amhara affirme qu'un massacre a été perpétré le 26 avril envers des musulmans qui s'étaient rassemblés au cimetière Cheikh Elias dans la ville de Gondar par des extrémistes chrétiens armés. L'endroit où le dignitaire musulman a été enterré est situé entre une mosquée et une église orthodoxe. La région de l'Amhara est majoritairement peuplée de chrétiens orthodoxes et le pays compte environ 30% de musulmans.
Au Maroc, la police a interpellé hier plusieurs clients et employés d'un café de la mégapole Casablanca, soupçonnés de non-respect du jeûne du Ramadan, pénalisé par la loi marocaine. Selon la presse locale, le nombre des personnes arrêtées n'a pas été précisé. Des cas d'arrestation pour non-respect du jeûne ont défrayé la chronique ces dernières années, aux grandes dames d'une poignée d'activistes qui défend le droit de ne pas jeûner.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est arrivé en Ukraine hier soir. C'est sa première visite depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Jacques Aristide.
Antonio Guterres a mis le cap sur l'Ukraine après s'être rendu à Moscou où il a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Le patron de l'ONU indique vouloir poursuivre le travail pour étendre le soutien humanitaire et assurer l'évacuation des civils des zones de combat. Il visite ce jeudi matin la banlieue de Kiev à Boutcha, Irpin et Borodianka, théâtre d'exactions imputées à l'armée russe par les Ukrainiens où des enquêteurs internationaux sont mobilisés pour rassembler des éléments constitutifs de crimes de guerre. Cela avant de rencontrer le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, et le chef de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky. La tournée du patron de l'ONU intervient au moment où les Occidentaux intensifient leurs efforts pour armer les Ukrainiens face à la Russie et à un moment également où de nombreuses chancelleries s'inquiètent du danger d'extension du conflit après une série d'explosions attribuées par Kiev à Moscou dans la région séparatiste pro-russe de Transnistrie en Moldavie.
Ici aux États-Unis, l'administration Biden a défendu mercredi sa politique de gestion de la frontière sud des États-Unis, donc face à une hausse des arrivées depuis le Mexique qui devrait encore s'accélérer en mai après la levée prévue de restrictions dues à la pandémie de COVID-19 si cette décision n'est pas définitivement bloquée par un juge fédéral saisi par des États républicains.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Au Cameroun, les feux de brousse provoqués par les agriculteurs pour préparer les champs ont détruit plus de 375 hectares de plantations dans l'Est durant la dernière saison sèche. Indiqué le gouvernement, une trentaine de produits agricoles ont été touchés, dont le cacao, le café et le manioc. La région de l'Est est l'une des plus exposées à l'insécurité alimentaire selon le gouvernement camerounais. Les États-Unis se disent préoccupés par la fermeture de sites pétroliers en Libye sur fond de querelle entre les deux gouvernements rivaux. Cette fermeture prive les Libyens de revenus conséquents et contribue à la hausse des prix, a déclaré l'ambassade américaine à Tripoli dans un communiqué. La Libye connaît depuis mi-avril une vague de fermetures forcées de sites de production, occasionnant des pertes de 600 000 barils par jour. En Afrique du Sud, la société publique Transnet a annoncé qu'elle va bientôt lancer un appel d'offres international pour la réalisation de terminaux de gaz naturel liquéfié. L'appel s'inscrit dans le cadre d'un projet pour doter le port de Richards Bay d'un terminal d'importation du combustible liquide qui devrait être opérationnel en 2026. Une vingtaine d'entreprises se sont dites intéressées lors de la demande d'information en février.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Nanit Talani.
Bonjour Idrissa. Bonjour à tous. Le club hollandais des Feyenoord reçoit ce jeudi soir à Rotterdam l'Olympique de Marseille en demi-finale aller de la Ligue Europe Conférence. Le stade Kuip affichera complet et les 2000 supporters marseillais auront sans doute bien du mal à se faire entendre face aux 48 000 fans de l'équipe néerlandaise qui n'avait plus atteint le dernier carré d'une compétition européenne depuis 2002, année de son sacre en Coupe de l'UEFA, l'ancêtre de la Ligue Europa. L'Olympique de Marseille peut s'attendre à un accueil brûlant face au Feyenoord, dont les dirigeants, craignant des incidents, ont lancé un appel au calme à leurs sulfureux supporters. Cette saison, le club a déjà écopé de 10 amendes de l'UEFA pour un montant total avoisinant les 500 000 euros. Chelsea, qui reçoit Manchester United ce jeudi soir, peut pratiquement verrouiller sa place pour la lucrative Ligue des Champions la saison prochaine. Une garantie de revenus qui lui permettrait de vivre plus sereinement la dernière ligne droite de son tumultueux processus de vente. La manne financière apportée par la plus prestigieuse des compétitions européennes serait un gage important dans un avenir incertain pour Chelsea qui reste suspendu à la vente du club qui traîne en longueur depuis l'annonce début mars du départ prochain du russe Roman Abramovich, oligarque russe visé par des sanctions de Londres après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Liverpool, qu'on a vu, largement dominateur, a battu Villarreal 2-0 à domicile hier soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions, confirmant son statut de favori en vue de la finale le 28 mai au Stade de France. Longtemps mis en échec par une défense adverse très regroupée, les Reds ont marqué les 2 buts en 2 minutes par le défenseur équatorien Pelvis Estupinan, qui a détourné contre son camp un centre du capitaine Jordan Henderson à la 53e minute, ensuite par l'international sénégalais Sadio Mané à la 55e minute. Le match retour en Espagne sera joué mardi prochain. L'élection de la nouvelle FERWASI, la Fédération de cyclisme du Rwanda, se tiendra le 29 mai prochain pour remplacer le comité sortant dont le mandat a expiré le 31 mars. C'est la date retenue à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 23 avril dernier.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La République centrafricaine a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du franc CFA et légalisé l'usage des crypto-monnaies. La présidence assure qu'il s'agit du premier pas du premier pays à le faire en Afrique et parle d'une décision courageuse et visionnaire. Mais cette mesure suscite beaucoup d'interrogations car de nombreux centrafricains ignorent ce qu'est le Bitcoin. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
C'est une loi controversée, mais qui finalement a recueilli l'avis favorable de la majorité des députés. Avant son adoption par acclamation, certains élus de la nation, en l'occurrence le chef de l'opposition, Anissé Georges Dologuélé, l'ancien premier ministre Martin Ziguélé et la députée de Bombari, Rachel Ngakola, avaient émis une lettre de réserve sur cette loi. Pour ces parlementaires, tous membres de la commission finance à l'Assemblée nationale, le Bitcoin a beaucoup d'inconvénients. La députée Rachel Ngakola.
Ils ont tellement menacé le rapporteur général qu'il a laissé de côté nos réserves. Il n'a pas fait mention de la réserve. J'ai demandé une motion pour signaler nos réserves. Et ça a soulevé des tollés. Les gens nous ont traités de rebelles, de groupes interparlementaires, de l'opposition. De quoi ont-ils peur? Nous parlons de la République, de la nation. Nous avons demandé des garanties. On leur a demandé de s'entourer de toutes les garanties avant de prendre une telle loi. Les gens sont tellement pressés, plus pressés que la musique. Alors j'ai préféré ne pas cautionner.
Malgré ces fortes réserves, les parlementaires ont fait le choix de l'adoption du texte. Une satisfaction pour le gouvernement qui l'a proposé. Justin Gournanzako est ministre des Postes et Télécommunications.
En tant qu'individu, vous devez déjà vous rendre compte que envoyer de l'argent de la République centrafricaine ailleurs devient très difficile. Recevoir également à destination de la République centrafricaine devient difficile parce que c'est contrôlé. Ça passe par les banques centrales. Et il y a beaucoup de choses. Mais avec la crypto-monnaie, il n'y a plus de contrôle de la banque centrale. Vous avez votre argent, vous envoyez à un investisseur. Pour une entreprise, vous recevez dans n'importe quelle monnaie que vous pouvez disposer avec vous. Vous avez l'Ukraine. Grâce à ça, a pu donc, dans la guerre, avoir des dons, avoir de l'argent et acheter des armes. Donc, il y a tellement d'avantages que je ne peux pas tous énumérer ici.
L'adoption de la loi sur l'utilisation du Bitcoin en République centrafricaine a fait réagir de nombreux centrafricains sur les réseaux sociaux. Certains disent ne pas comprendre ce que cela veut dire. D'autres, par contre, s'interrogent sur la nécessité du vote au moment où le pays est, pour l'instant, le seul à l'adopter dans la sous-région de l'Afrique centrale. Dans les rues de Bangui, les réactions divergent.
C'est une bonne idée, mais qui n'est pas partagée dans sa totalité. À mon avis, je pense que les gens qui utiliseront la monnaie Bitcoin auront bien et bien un problème, puisque on est dans un pays qui est tellement instable.
Par rapport à notre pays, je peux dire que ce n'est pas avantageux parce qu'il y a un problème de connexion qui se pose d'ailleurs.
Les députés ont bien fait de voter la loi sur la crypto-monnaie. Ok, mais ils n'ont pas vu nos parents qui sont à Malengapo. Il y a nos parents qui sont à Bouaï, à Bouara. Ce que je parle là, c'est en République centrafricaine, ce village-là. Est-ce qu'eux, ils savent comment est-ce qu'ils utilisent la crypto-monnaie pour retirer leur argent?
Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
La voix de l'Amérique, Bangui, 101.7 FM.
Au Cameroun, les autorités affirment que les séparatistes anglophones se sont associés aux indépendantistes du Biafra au Nigeria pour fermer presque tout commerce à travers la frontière. Le Cameroun dépend du Nigeria pour 70% des produits de base et la plupart d'entre eux sont transportés par la route. Yaoundé soutient qu'environ 90% du commerce a été interrompu alors que des militants des deux côtés attaquent et enlèvent des marchands. De Yaoundé, un reportage de Moki Edwin Kinzeka rendu par Nanit Talani.
Djoumé Peter Ambang est un législateur de la région du sud-ouest du Cameroun à la frontière avec le Nigeria. Il dit qu'au cours des deux derniers mois, les combattants ont pris le contrôle de nombreuses entreprises, y compris des plantations de palmiers à huile indienne, une division de la région du sud-ouest. Djoumé Peter Ambang s'exprimait dimanche dans la capitale d'Indiane, Mundemba, lors d'une réunion pour implorer les combattants séparatistes à déposer leurs armes et de cesser de harceler les commerçants.
Le commerce maritime s'est effondré. Le commerce pétrolier s'est complètement effondré. Les champs d'huile de palme ont été saisis par les séparatistes. Ils moissonnent les récoltes. Ils moulinent et vendent. Ces gars-là travaillent avec des garçons de la région, des groupes armés au Nigeria.
L'armée camerounaise affirme que plusieurs centaines de combattants ont été chassés des villes et villages lors des raids des troupes gouvernementales. Toujours selon l'armée, les combattants ont tué au moins 2 douzaines de marchands et enlevé des dizaines d'autres depuis janvier. Capo Daniel, chef adjoint de l'un des plus grandes troupes séparatistes, soutient que de nombreux combattants ont été déployés à la frontière avec le Nigeria, mais il nie avoir fui les combats avec les troupes gouvernementales camerounaises. Selon lui, les séparatistes collaborent avec le réseau des peuples autochtones du Biafra IPOB, un groupe sécessionniste dans l'est du Nigeria. Capo Daniel soutient que les séparatistes du Biafra collaborent avec ceux du Cameroun pour s'entraider et saper le contrôle gouvernemental de la zone frontalière.
Nous voulons mettre en place notre propre réseau de sécurité pour réguler le commerce et contrôler la circulation des biens et des personnes entre le Biafra et l'Ambazonie. Nous ne permettons plus au Cameroun et au Nigeria d'appliquer leurs lois à la frontière entre le Biafra et l'Ambazonie. Nous allons mettre fin à l'exploitation du peuple du Biafra ainsi que du peuple d'Ambazonie. Nous travaillons en alliance avec nos homologues de l'autre côté de la frontière au Biafra.
Capo Daniel déclare que les séparatistes anglophones et l'IPOB nigérian ont été en mesure d'empêcher le Cameroun et le Nigeria de percevoir des revenus de la vente de produits de base et de culture, notamment le riz, le maïs, les tubercules, la banane plantain et le cacao dans les localités frontalières. Il ajoute que les combattants punissent les marchands qui collaborent avec les deux gouvernements en payant des impôts ou en acceptant d'être escortés par les troupes gouvernementales. Le Nigeria et le Cameroun ont promis d'écraser tous les séparatistes qui ne se rendraient pas. Les gouvernements des deux pays ont annoncé en février 2021 qu'ils travailleraient ensemble pour combattre les séparatistes et les groupes armés. Le Cameroun a déclaré cette semaine avoir déployé davantage de troupes à la frontière pour protéger les civils, les commerçants et leurs biens.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les Chinois sont présents en Afrique du Sud depuis les années 1600. Beaucoup sont venus comme ouvriers ou propriétaires d'entreprises. La plus grande communauté chinoise d'Afrique se trouve aujourd'hui en Afrique du Sud. Les familles se rappellent encore comment elles ont échappé à la pauvreté dans leur pays d'origine et ont persévéré face à la discrimination pour devenir une composante essentielle de la nation arc-en-ciel. De Johannesburg, un reportage de Kate Bartlett. Le récit est de Michel Joseph.
Des sans-abri somnolent sur le seuil des portes et l'odeur des ordures brûlées remplit l'air de Commissioner Street, une section délabrée et dangereuse du centre-ville de Johannesburg. On peut voir quelques toits de style pagode, des vieux bâtiments décorés de dragons et des enseignes avec des caractères chinois devenus presque illisibles au fil du temps. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique du Sud. Les liens entre les pays ont commencé dans les années 1600 avec des condamnés chinois arrivant d'une colonie hollandaise qui est aujourd'hui l'Indonésie. Deux siècles plus tard, des migrants chinois, attirés par la ruée vers l'or, sont venus s'installer en Afrique du Sud pour établir ce qui va devenir le premier Chinatown de cette ville minière. L'historienne Melanie Yap explique.
Lorsque les mines d'or et de diamants sont devenues des attractions et que de nombreuses personnes sont venues ici à la recherche de richesses, et Johannesburg en chinois en fait s'appelle Gamsam, ou la montagne d'or.
Ces migrants ont été confrontés au racisme ambiant bien avant l'instauration du système d'apartheid en 1948. Les Chinois ont été interdits d'exploitation minière et ont été confrontés à d'autres types de discrimination. De nouveau, Melanie Yap.
Les Chinois, comme tout le monde ici, étaient classés dans un groupe racial particulier. Il n'y avait que certaines choses qui leur étaient permises. Techniquement, vous ne pouviez aller à l'école et vivre que dans les zones qui vous étaient réservées.
Sous l'apartheid, le mariage interracial était interdit. Cela n'a pas empêché Yolande Dreyer, une sino-sud-africaine de troisième génération, de se marier à Wynard, au risque d'être envoyée en prison pour leur amour. Yolande Dreyer et son époux Wynard.
Parce que nous effreignions une loi qui figure sur le statut, ils auraient pu nous arrêter définitivement.
Nous recevons de temps en temps un commentaire de la génération suivante. Dieu merci pour les gars comme vous, parce que vous nous avez rendu les choses tellement plus faciles. Parce que nous étions en train de briser le tabou de l'époque, nous nous battions contre beaucoup de résistance.
Depuis l'avènement de la démocratie en 1994 en Afrique du Sud, les choses ont beaucoup changé. Il y a maintenant des sino-sud-africains au gouvernement, comme Michael Sun, un conseiller municipal de Johannesburg, membre de l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition. Néanmoins, le racisme est toujours présent.
J'ai été plusieurs fois victime de racisme, de sectarisme, d'insultes raciales. Ça arrive aux États-Unis aussi. Je pense que c'est là que le mouvement Stop Asian Hate a commencé. Je pense que nous devons vraiment commencer quelque chose de similaire ici en Afrique du Sud.
L'OTAN et les pays alliés ont convenu d'accroître leur soutien militaire à l'Ukraine pour lutter contre l'invasion russe à la suite d'une réunion organisée en Allemagne par le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin. Il estime que les armes doivent être livrées rapidement alors que la guerre entre dans une phase cruciale. Les précisions d'Henry Ridgewell de Londres. Le récit est de Jacques Aristide.
Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense, a accueilli une quarantaine de ses homologues à la base aérienne de Ramstein en Allemagne pour rallier l'aide à l'Ukraine.
L'Ukraine croit clairement qu'elle peut gagner et tout le monde ici le croit aussi.
Il est d'avis que les forces russes ont subi des pertes importantes.
Nous aimerions nous assurer, encore une fois, qu'elle n'ait pas la même capacité à intimider leurs voisins, comme nous l'avons vu au début de ce conflit.
Lloyd Austin indique que 30 pays ont promis 5 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine, dont 3,7 milliards de dollars des États-Unis.
Les semaines à venir seront tellement cruciales pour l'Ukraine que nous devons aussi avancer à la vitesse de la guerre.
Jusqu'à présent, l'Allemagne a refusé de fournir des armes lourdes, mais a confirmé mardi qu'elle enverrait 50 chars Guépard équipés d'armes anti-aériennes. Christine Lambrecht, ministre allemande de la Défense.
C'est exactement ce dont l'Ukraine a besoin maintenant pour sécuriser l'espace aérien depuis le sol.
L'Occident a été contraint d'agir, selon Fabrice Potier, ancien directeur de la planification politique de l'OTAN.
De toute évidence, la situation sur le terrain a changé. Et le genre de massacre de civils que vous voyez a changé la donne.
La guerre en Ukraine s'est déplacée vers la région orientale du Donbass, ce qui requiert des besoins militaires différents, d'après l'analyste Bradley Bowman.
Ce sont donc de vastes zones ouvertes. L'artillerie sera un élément clé. Le camp qui a le plus d'artillerie et qui peut effectuer des tirs avec précision et rapidité est probablement celui qui va gagner.
La Russie a averti du danger réel que le conflit dégénère en Troisième Guerre mondiale au vu de la livraison d'armes par l'Occident à l'Ukraine. Le secrétaire Lloyd Austin a qualifié ses remarques de dangereuses et inutiles.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia et Mohamed Humfa, à la mise en onde Georges Léonard Sagnou et à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.